Mon nom est Bernard Bockel, nous sommes le 22 mars 2007, il fait légèrement gris à Winnipeg. Je suis en compagnie de M. Henri Danfousse, qui est né en 1927. Et nous allons commencer, un peu comme d'habitude, à évoquer les premiers souvenirs de M. Danfousse à la ferme de son père Joseph.
Du commencement, je me souviens encore quand j'allais à l'école.
Ah bon?
Que j'aimais pas trop les études. Mais seulement que les dernières années, là, il me semblait que ça devenait de mieux en mieux. Mais à un moment donné, mon père m'avait demandé si j'aimerais aller travailler dans le champ. Ah ben, je dis oui de suite.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
Oh là, j'avais peut-être 15-16 ans.
Fini cette 9e
année
d'études.
Parce que, oui, c'était ma 9e année d'études. Mais là, je me suis dit, moi-même, pas le fait que j'avais une chance de m'esquiver de l'école, mais de profiter. C'était peut-être pas la meilleure chose, mais en tout cas, c'est un souvenir.
Et à quelle école vous êtes allé?
À l'école de l'atelier. École Inverness de l'atelier.
Alors, c'était une école qui allait de quelle année à quelle année?
La première à la 12e.
De la première à la 12e?
Oui, dans le temps, oui.
Il y avait beaucoup de monde à cette école?
Oui, elle était pleine. Oui, les classes étaient remplies.
Alors, il y avait combien de distance entre la ferme à l'atelier et l'école?
2000.
Il y avait 2000. Oui. Et vous les franchissiez comment?
En voiture. En été, c'était en auto. En hiver, c'était en cabane, avec des chevaux, tirés par des chevaux.
Alors, en auto, ça veut dire que votre père avait une automobile?
Oui.
Il a été un des premiers dans la région à avoir une automobile?
Un des premiers, oui.
Vous vous souvenez de l'automobile?
Oui, c'est un Chevrolet.
De quelle année? De quelle couleur?
Je ne sais pas non plus. Je vois la forme. Mais la couleur, l'année, je ne me souviens pas. J'avais quoi? Après 37, autour de 35-37.
Donc, votre père était un fermier en moyen?
Oui. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un fermier en moyen dans les années 30? Parce que là, on est dans les années de la dépression. Ça allait bien pour lui quand même?
Oui, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait de la misère. Puis, à la maison, on avait toujours de quoi manger. Ça ne manquait pas.
C'était des grands jardins.
Des grands jardins. Puis,
il y avait de l'électricité à la maison, puis ailleurs, il n'y avait pas. Il y avait des génératrices.
Là, si vous voulez parler, il faudra à un moment donné venir. Non, mais c'est simplement. C'est très bien, mais c'est juste. Il faut que ça puisse enregistrer.
Okay.
Voilà. Donc, il y avait des grands jardins. Donc, pour vous, il n'y a jamais eu de misère.
Et non.
Donc, il avait les moyens de s'acheter une voiture.
Oui, oui.
Alors, parlons de l'électricité une seconde, là.
L'électricité, bien, c'est que la maison était fournie l'électricité par un clan ou un générateur. Mm-hmm. Avec un moteur à gaz. Puis, on avait même l'électricité dans l'étable. Fait que, non, la question des fanales, on n'a pas connu ça.
Mais vous devez être parmi les seuls dans la région à ne pas avoir connu le fanal.
Oui, à peu près.
Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, votre père? Il était avant-gardiste?
Je ne sais pas. Je ne peux pas dire quoi, là. Mais... Non, je trouvais que c'était un des plus avancés pour le temps.
Alors, dans quel domaine il était avancé aussi?
Ben, dans tout. Parce qu'il s'occupait de... Il était... Ben, je me souviens qu'il a été quoi, 20 ans conseiller, puis autant comme secrétaire de l'élévateur du pôle, puis pourquoi encore. Là.
Est-ce que lui avait hérité de la terre de ses parents?
Oui, oui.
Et ses parents s'appelaient comment?
Lui, il était Antoine.
Alors, Antoine Danfousse, lui, c'est le premier à être installé sur la Terre?
Oui. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph, oui, comme on disait tout à l'heure, le chemin qui séparait, qui était la frontière entre Saint-Joseph et l'Étalier, bon, ben là, quand mon père s'est marié, parce qu'il restait à Saint-Joseph, là, de bord du chemin, puis après ça, ils ont bâti une maison sur l'autre côté. C'est de façon-là qu'ils sont devenus paroissiens de l'Étalier.
Alors, il a été conseiller municipal?
Oui.
De quelle municipalité?
Montcalm.
Et quand vous dites qu'il a été secrétaire de l'élévateur?
Oui. Ouais, c'était encore plus que j'ai dit. Secrétaire de l'élévateur du pôle de l'Étalier pendant 40 ans.
Le premier.
Oui, c'était lui. C'est lui qui était le premier secrétaire. Puis 25 ans comme conseiller de municipalité.
Alors, j'imagine que...
Attendez un peu, là. Je pense que je me suis trompé dedans. OK, c'est deux coopératives. La coopérative de l'élévateur du Pou, puis il était 25 ans comme secrétaire de la coopérative de l'hôtelier. Ça, c'est pour ce qui regarde la vente de le pétrole, d'engrais, même d'épicerie.
Alors, votre père était un homme engagé, quoi?
Oui, ben, engagé, il était occupé. Ben, il voyait à sa pédagogie.
Je veux dire, impliqué dans la communauté.
Oui.
Et il voyait sans doute son intérêt à faire partie de la coopérative.
Oui.
Alors, est-ce qu'il vous a donné des conseils? Est-ce qu'il était du genre à parler? Est-ce qu'il était du genre à...
Pour ça, non.
Non?
Non. On ne se parlait pas beaucoup. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais non, pour communiquer, là, non. Même qu'on fait, non.
Alors, ces expériences de conseiller municipal, il n'en parlait pas à la table?
Non.
Il ne partageait pas?
Non.
Et puis, pareil, son travail de secrétaire de l'élévateur du bourg?
Non plus. Non, c'est son domaine, puis pas plus.
Bon.
Puis, c'était un homme qui a fait son grade, sa quatrième année à l'école. Il s'est instruit en lisant.
Donc, il ne parlait pas beaucoup?
Non.
À personne?
Oui, oui. À d'autres, oui.
Conseiller
oui, 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 oui.
Il
parle. Oui, 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 oui.
C'est comme ça. Avec les étrangers, il était plus parlant.
Ah bon?
Ah oui, j'ai remarqué ça plusieurs fois.
Il était plus parlant, comme vous dites, madame, avec les étrangers?
Oui. Puis même moi, avec son frère, qui est mon oncle, là, on peut comme jaser toute une veillée de temps.
Le
ça.
Père à Georges Danfousse,
oui.
Comme il vient de dire. Mais il a parlé avec lui, là, toute la nuit. Quasiment, des fois, il est jusqu'à 2 heures du matin, là. Et puis, Paul Danfousse, le garçon à Albert, il ne se parlait pas aux autres non plus. Mais Paul arrivait chez son père à lui. Puis là, il se mettait à jaser, puis il pouvait passer des grandes veillées à jaser. Mais c'est pas nécessaire, mais ça des livres, là.
Bien, c'est...
C'était comme ça.
Ça dit beaucoup quand même.
On dit le pourquoi, hein? Le pourquoi, c'est que la famille d'Anfousse, il était seulement trois. Et puis, trois enfants. Il y avait Albert, Anna, puis Joseph. Puis les parents ne parlaient pas à leurs enfants tellement. Il fallait que ça soit silence, ils n'entendaient pas, etc. Fait que ils n'ont pas appris tellement à communiquer, vous savez. Comme son père a été dans beaucoup de choses, c'est correct, mais il ne donnait pas ça à ses enfants. Il n'a pas été capable de le transmettre.
Bien, alors retenons que votre père était quelqu'un qui était avant-gardiste, qui s'était organisé pour avoir un générateur. Donc vous n'avez pas connu de misère?
Non.
Vous avez eu l'automobile dans vos premiers souvenirs? Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre équipement? comme équipement sur la ferme?
Ben, de ce que je me souviens, il y a un tracteur au début, de mon temps.
Vous vous souvenez du tracteur?
Oui.
Qu'est-ce que c'était comme tracteur?
C'était McCormick Deering, 1530. Puis après ça, ben là...
Il vous a laissé des bons souvenirs? Vous l'avez...
Non, je n'ai pas travaillé sur ce tracteur-là. C'est rien qu'après. Là, il a changé pas longtemps après. Quand j'allais arrêter d'aller à l'école, ben là, j'en conduisais un, mais c'était pas celui-là. C'était pas le premier, c'était le deuxième.
Alors, vous conduisiez le deuxième, c'était
Le deuxième, c'était un John Deere.
Quel genre de John Deere?
Ça, c'était pour la culture. Row crop, qu'il appelait ça. Là.
Comment?
Row crop. Ça veut dire deux petits trous ensemble, en avant. Il faut élargir les roues comme au besoin.
En arrière.
Est-ce qu'il y avait des pneus? Ou
oui.
C'était déjà des pneus?
Le premier, non. Mais le deuxième, oui.
C'est ça.
Le premier, c'était ce crampon.
Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme équipement encore? Là, on avait le tracteur.
Ah, ben, il y a la semeuse.
Il y a la semeuse. C'est une quoi, la semeuse?
Une semeuse. Oh. Là. Ça doit être un McCormick Deering, international.
Une internationale?
Internationale.
D'accord.
Ça, c'était la première, c'était une 28 roulettes. Ou 28 rangs.
Vous l'avez gardée longtemps, celle-là?
Oui, plusieurs années. Puis après ça, ben là, ils ont sorti les semeuses. Ils appelaient ça les press drills. Mm-hmm. Il y a des roues vis-à-vis de chaque rang. Puis avant de décider d'en acheter une, on a essayé. Puis on a commencé un 40 aux d'un côté avec la semeuse. On s'est appelé ça le western drill. Puis l'autre côté avec la press drill. Puis on a arrêté là. Puis qu'est-ce qui était semé avec la press drill, c'est arrivé trois jours avant l'autre. Puis une germination pour moi était égale.
Donc la comparaison était concluante.
Oui.
Et on est en quelle année, là?
Là, c'était... Oh.
Vous avez quel âge, allez?
Je dirais 1940.
Et là encore, vous étiez sans doute parmi les premiers à avoir cette fameuse
press drill. Oui, oui.
Mais comment il avait mis la main dessus?
Ah, ben, je sais pas. C'est des annonces qui étaient faites, puis qu'ils sortent certaines choses... Il y en a d'autres après ça, c'est du même genre. C'est qu'on a eu connaissance que ça existait. Fait qu'on l'essayait, puis oui, ça marche, on l'en prend.
Alors, la semeuse, et après la semeuse?
Après la semeuse.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Ben là, les premières années, ça battait au moulin. Puis ça, mon père, il avait un moulin à battre.
Qu'est-ce que c'était comme moulin à battre?
Oh, je pense une caisse.
Une petite?
Non, c'est une assez grosse, une 30. Il y avait des 22, je pense que 28 pouces de cylindre.
Alors, vous avez des souvenirs? Est-ce qu'il y avait des équipes de batteux qui venaient?
Oui, oui, oui. Oui, il y a des gens de l'Est qui venaient pour l'ouvrage avec leurs chevaux. Puis, c'était toi le meilleur souvenir, mais on a su qu'il y en a qui, quand ils retournaient chez eux, après les battages, les chevaux étaient tout en bien engraissés. Puis, ils étaient mieux qu'avant. Parce que ça donnait des périodes de mauvais temps. Puis là, ben, c'est nous autres où les chevaux étaient soignés avec de l'avoine qui venait du propriétaire qui engageait les ceux qui venaient. Puis là, ben, ils étaient même les poches d'avoine, parce qu'ils soignaient leurs animaux, puis ils ne travaillaient pas. C'est de cette façon-là qu'ils ont engraissé leurs chevaux.
Est-ce qu'il y avait
travailler.
oui, c'était une très bonne anecdote. Est-ce qu'il y avait régulièrement des périodes de pluie? Vous avez
oui,
des...
oui, souvent.
Ah, souvent, les, souvent.
Ben, souvent, pas tous les ans, mais assez souvent.
Alors, idéalement, les battages duraient combien de temps? Quand il faisait beau tout le temps.
Tout le temps? Oh, ça a été une affaire de 2-3 semaines.
Ah oui, hein?
Oui.
Au mieux 2-3 semaines?
Oui. Mais ça, il fait ce qu'il faisait du battage pour les voisins. C'est pas toutes les,
ah oui, ah bon,
c'est pas tous les voisins qui avaient les moyens d'avoir une batteuse. Fait que c'est pour ça qu'il y avait une grande affaire, là, plutôt. Fait que c'est pour ça que ça prenait plus de temps.
Alors, votre père qui a commencé évidemment par lui-même, dépendant.
Oui, dépendant, si c'était prêt.
Si c'était prêt.
Oui. Autrement.
Et là, il y avait comme une espèce de coopération. Les batteux savaient, ils venaient.
Oui.
Avec leur team de
oui,
chevaux.
Oui. Puis s'il n'avait pas assez, ben, on en fait venir dans le haut. Puis surtout, c'est surtout ceux-là qu'ils retournaient, comme je disais tout à l'heure, ils retournaient avec les chevaux en meilleure condition qu'ils étaient quand ils ont commencé.
C'est pauvre dans ce coin-là,
hein? Oui, assez.
Dans quel coin?
Dans le coin de Vasseur même, oui. Ah oui, c'est aussi loin que Vasseur.
Et quand il y avait de la pluie, alors, dans des conditions un peu moins bonnes, ils étaient autour combien de temps, les bateaux?
Ah, ben, il restait, faut qu'ils restent proches, parce que dans 2-3 jours, ça se pouvait être bon.
Ils étaient nourris aussi,
non? Puis ils étaient nourris aussi par...
la maman.
Oui. Ça, c'était trop loin pour retourner chez eux.
C'est ça. Et ils dormaient où?
Ah, il y avait, je pense qu'il y avait des cabouses. Dans la cour. Puis là, ben, ils couchaient dans une cabouse.
Donc,
c'est comme un genre de maison sur roue.
C'est ça. Ils venaient avec leur maison sur roue.
Non, pas eux autres. C'est mon père qui fournissait. Fournissait la cabouse. Oui, oui. Oui. Ben, il n'y avait pas un clou, il y en avait d'autres. Ah oui.
Ah oui. Alors, est-ce que vous pourriez la décrire un peu, cette cabouse? Il y en avait une.
Ben, c'était quoi? C'était 8 pieds de large par, peut-être 20 pieds de long. Puis, je pense qu'il y avait des lits simples, un chaque bord. Il y avait une allée, ils avaient de la porte. Puis, c'était comme des bunk beds, là, ils couchaient là-dedans. Sauf que je ne l'ai pas vu tellement de mon temps, mais je me souviens de l'avoir vu. Parce que j'avais aidé au battage seulement la dernière année qu'ils ont eu un moyen à battre. Après ça, on a changé aux combines.
Alors, justement, vous avez aidé la dernière année et vous avez aidé à quel âge, là, à ce moment-là?
J'allais à l'école, là, après 15 ans.
Donc, c'est bien le moment où votre père a dit « Est-ce que tu veux travailler au champ? »
Oui.
Parce qu'autrement dit, avant... Henri, son petit Henri, il lui a pas demandé de faire grand-chose à la ferme?
Non, mais parce que j'étais trop jeune. Puis,
Il avait juste à traire les vaches, hein?
Oui, il commençait à traire les vaches à l'âge de 8 ans.
T'en as fait ça jusqu'à quel âge, quand tu te maries?
Oui.
Bon, alors, si vous voulez intervenir, c'est très bien, mais parlez fort, pour qu'on puisse l'entendre. Donc, OK. Alors, vous avez aidé Auchan à partir de 15 ans. Donc, c'était la dernière année des battages. Hein, c'est ça?
Oui.
Alors, on est à ce moment-là, en 1942?
Oui. 41, parce que la première combine, nous, on l'a vu en 42.
D'accord. Bon, alors, on va y venir. Mais d'abord, parlons quand même de ce souvenir qui n'a pas été si formidable que ça, mais de traire les vaches. Alors... À quel âge?
10, 12 ans. C'est une offre qui nous avait été faite. Quelqu'un avait une vache à vendre, puis nous disant qu'elle était bonne au lait, puis était facile à traire. Puis tout qu'on l'a acheté, puis c'était tout le contraire. J'ai passé des... Oui, une heure pour la traire, essayer de la calmer, puis mettre le bras pour l'enfarger. Elle ruait tout le temps. Je ne sais pas pour quelle raison, puis elle était dure, elle était extrêmement dure à traire. C'est tout le contraire que ce qu'il nous avait été dit.
Mais vous aviez qu'une vache?
Non, non, c'était avec les autres.
Avec les autres.
Mais celle-là, elle restait là parce qu'on voulait prendre du temps pour la traire.
Et puis c'est sur vous qu'elle est tombée?
Oui. Oui, mais mon père n'en tirait pas de vache. Avant que je commence, c'était ma mère. Ou... ma grand-mère, plutôt.
Elle s'appelait comment?
Marie.
Marie comment?
Marie Lavallée.
Alors, c'est la grand-mère qui tirait les vaches?
Oui.
À la main?
À la main.
Alors, Joe Danfous, il était en avance sur beaucoup de choses, mais il n'avait pas de treilleuse mécanique?
Non. Puis même à la main non plus. C'est toujours soit ses parents ou des hommes engagés qui traillaient les vaches.
Et donc, il n'a jamais songé à avoir une treilleuse mécanique?
Plus tard, oui.
Elle est arrivée vers quand, alors?
Là, c'est les dernières années. On s'en est servi. Quelle année? Disons 45-46, à peu près.
Qu'est-ce que c'était comme vache?
Des Holstein. Surtout.
Enregistré?
Non. Non, c'est comme un.
Et les autres, c'était des quoi?
Non, je pense pas. Non, je me souviens pas qu'on ait vu des animaux enregistrés.
Non.
Les autres sortes de vaches. Oh, c'est un mélange de toutes sortes, je pourrais pas dire quoi.
Et il y en avait combien?
J'ai une quinzaine. À peu près 15, oui.
Bon, et puis qu'est-ce qui arrivait au lait?
Alors, on vendait le lait. On vendait le lait en ville. Qu'est-ce qu'il faisait avec, là, je ne sais pas.
Alors, le lait était vendu en ville, donc oui. Ça veut dire que le transfert venait...
Oui, il fallait aller mener le lait au village, puis le transfert en allant en ville.
Tous les jours?
Oui.
Comment il était gardé frais, le lait?
Alors, il fallait se faire une citerne. Puis en hiver, il fallait se faire de la glace. On servait de ça en été. Prenait un bloc de glace, mettait dans la citerne pour refroidir le lait.
Alors, attendez, décrivez-moi la scène un petit peu. Alors, il y a une citerne?
Une citerne, c'est un bassin plutôt. C'est dans le ciment.
OK.
C'est, mettons, trois pieds de large par cinq pieds de long, puis trois pieds de profond. On mettait de l'eau dedans, puis on mettait de la glace pour faire refroidir le lait. Quand on mettait le lait à la fin de la traite, on amenait le lait, les cannes de lait là-dedans pour le faire refroidir. Puis les journées qui faisaient plus chaud, mais là, on avait une cuillère exprès pour brasser le lait pour qu'il refroidisse plus vite.
Lui aider après.
Oh, c'est une cuillère.
Décrivez-la-moi un peu, là, pour le micro, là.
Le manche, à peu près 2,5 pieds, 3 pieds. Puis, comme un genre de soucoupe au bout du manche. Puis là, c'était pour faire actionner le lait pour qu'il se mélange.
Ah oui, donc c'était vraiment organisé.
Oui.
Est-ce que d'autres fermiers des alentours
avaient le même système? Oui, c'était la façon de faire. Oui, pour ceux qui avaient des vaches à lait, pour vendre le lait. Il y en a d'autres qui en avaient des vaches à lait, mais c'était pour y faire la crème. Ils écrémaient le lait.
Oui.
Pour ça, ils vendaient la crème.
Oui.
Ça, c'est un autre. Mais ça, là, je pense pas qu'on ait fait ça. Nous.
Donc, il n'y avait pas d'écrémeuse?
On a déjà eu une, mais il me semble pas longtemps. Non, pas assez longtemps pour que j'aie la chance de le laver, seulement. Bon, il n'était pas bien vu non plus.
Mais alors, s'il y a eu une écrémeuse, c'est parce que finalement, il avait peut-être essayé de vendre la crème plutôt que le lait?
Oui, bien là, je pense que si ma maman ne me trompe pas, là, c'est qu'il y a des fois qu'on avait du surplus de lait. Parce que là, en vendant du surplus, on était presque pas payé pour. Parce que là, après qu'on pensait qu'on avait à peu près la bonne quantité, bien là, le surplus, on l'écrémait. qu'on vendait de la crème à part, qui donnait un meilleur rendement.
Alors, est-ce qu'il y avait un contrat de lait?
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez du montant du contrat de lait?
Ça, non.
Avec
non,
quelle compagnie, pas... peut-être?
Non plus. Je pense que c'est Crescent, mais pas sûr.
Et donc, le lait était emmené où au village?
Le transfert, il y avait une bâtisse exprès. Puis là, bon, on emmenait toutes les cannes là, puis à mesure, je pense, à mesure qu'il arrivait, il mettait ça dans le camion pour l'emmener en ville. C'est ça qu'il était le moyen.
Et puis, qui c'est qui s'occupait du transfert?
C'était un nommé parent.
Vous vous souvenez de son prénom?
Je pense que c'est Édouard Parent.
Il l'a eu longtemps?
Plusieurs années.
Donc, on parle dans les années 30, là?
Oui. Puis même jusqu'en 40. Je dirais au moins 10 ans.
Et après, il a eu un successeur?
Après... Là, je ne sais pas. On a laissé surtout les animaux, les vaches à lait.
Quand?
On a fait un an avec... mon père avait acheté des animaux à bœuf. Je sais pas, c'est pour changer un peu le genre de vie. Mais ça, on a mal tombé.
Ah oui?
Ah oui. C'est qu'on a acheté des animaux qui venaient d'un enclos où ce qu'ils voyaient pas personne. En tout cas, c'était comme des chevreux. On ne pouvait pas les approcher. C'est des vaches qui ont eu veau. Puis ces veaux-là, mais on a eu assez de misère avec pour les rentrer dans l'étable. Il y en a trois, il a fallu les tuer sur le champ. Ils voulaient pas rentrer. On avait beau mettre une clôture à neige, puis juste un passage, puis les portes ouvertes. Un passage pour aller dans la porte. Puis là, ben, quand à un moment donné, on les a vus qui étaient dans la porte, fait que là, on s'est avancé, mes frères et moi. Ils disent, on va prendre la clôture, puis les pousser dedans. Mais non, ils ont viré de bord, puis si on ne circulait pas, ils font ça une jour. Fait que là, ben, c'était la fin.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Ben, c'est l'année qu'on s'est mariés.
57.
En 57, oui.
Donc, vous aviez 20 ans. 29 ans, pardon. Ah oui, donc c'est des souvenirs pour vous tout à fait clairs dans la tête, là.
Ben oui, pas mal.
Et puis ça, c'est le père qui avait décidé qu'il n'y aurait plus d'animaux à lait?
Non, ben justement, là, c'était dans ces années-là qu'on a commencé la betterave à sucre. Fait que là, on s'est dit, en ayant des animaux, mais ça prend du terrain pour le package. Ça prend du terrain pour faire du foin. Fait que là, ça fait des orques de moins à produire soit des céréales ou le betterave. Fait que là, on a décidé de laisser aller les animaux puis s'occuper sur d'autres choses qu'on pensait qu'il était mieux.
Et le tournant a été pris donc en 1957.
Le quoi, ça?
Le tournant.
Le tournant. Vous voyez un peu avant. 50... Ouais, OK. En tout cas, les derniers animaux, c'est en 57.
Alors, la dernière...
56. Oui.
C'est ça. Donc, la dernière tentative, c'est, bon, le lait, on laisse faire.
Oui.
Et le contrat de lait, donc...
Non, ça partait avec...
C'était réglé.
Oui, c'était vendu, même.
Il avait vendu le contrat de lait.
Oui, ça se vend avec les vaches. Ça, c'est pas...
Alors, il a vendu le contrat de lait et les vaches?
Oui.
À qui?
Ah, là, non, je me souviens pas.
D'accord.
Ça, dans le temps que... Dans ce temps-là, moi, j'étais pas au courant de...
On a bien compris que Papa Joe, il racontait pas tout.
Bon, justement.
C'est entendu. Justement. Ça valait la peine d'avoir le détail. Bien, donc là, on a eu... Et vous avez été obligé de traire les vaches pour combien de temps?
Ben, de 8 ans La dernière année, une autre anecdote, c'est que en ayant ces vaches mauvaises, comme on pourrait dire, c'est que sauvages, c'est que l'été, c'est mes sœurs qui allaient les chercher dans l'enclos pour les traire. On avait d'autres vaches, à part de ceux-là. On avait gardé deux ou trois. Puis c'est arrivé une fois qu'il y a une de mes sœurs qui a passé proche de se faire tuer par une de ces vaches-là. Parce que elle avait son veau tout proche. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un étranger qui est venu. Fait que là, elle a juste eu le temps de se pousser en dessous de la clôture. C'est de même qu'elle a été sauvée.
Ah oui,
hein? Fait que quand on a vu ça, là, c'était une raison de plus pour les, tout te laisser aller. Oui.
Ça a dû être la peur de sa vie.
Oui. Là, ah, oui, puis pas rien qu'elle, toute la famille.
Ben oui.
Oui.
Et donc, vous avez trait de 8 ans pour qu'on sache officiellement jusqu'à quel âge?
C'est, ah oui, presque 28. Une vingtaine d'années.
Bon, alors, vous avez jamais dit à papa, je veux plus traire les vaches?
Non.
Ça se faisait pas?
Non. Non, on faisait ce qu'il y avait à faire, puis non.
Alors, qui distribuait le travail? Il y avait quand même beaucoup de frères, il y avait du monde. Qui distribuait le travail à la ferme?
Je peux pas dire qu'il y en a un qui distribuait. On le prenait, on faisait ce qu'il y avait à faire.
Mais c'est ton père qui
nous
disait quoi
faire? Au début, oui. Mais non, je ne pourrais pas dire, là, que... Non, il me semble qu'il ne me disait pas que tu vas faire ci, que tu vas faire ça. Non.
Alors, qui d'autre traillait les vaches à part vous?
Ben, mes frères, surtout. En dernière année, je pense que...
Et puis là, il y avait la trailleuse mécanique.
Dans ce temps-là, non. Non, ça ne servait plus, parce qu'on n'avait rien qu'une ou deux vaches à traire. Fait que c'était juste pour la maison.
Ah, bon,
que la treilleuse non, mécanique était... Non, c'était défaite, ça.
Pour que vous ayez le lait, quoi.
Ben oui. Le lait pour la maison.
Bon, alors, est-ce qu'on a une date à partir de quand il a laissé... Quand il a vendu les vaches et le contrat?
Non.
Vous étiez... Ça a dû être un grand moment pour vous. Parce qu'après, il n'en restait plus qu'une coupe après.
Oui, mais en hiver, il y en avait d'autres.
Comment?
Ben, je pense que c'est 6 qu'on avait acheté. 6 vaches sauvages, comme on appelait. C'était pour, pour du bœuf, pour la viande, ou... je me souviens pas trop. En tout cas, ça n'a pas été un bon succès.
Bien. Alors là, il faut qu'on fasse de nouveau un retour sur la question des combines, les batteux. Qu'est-ce qui est arrivé au batteux? Quand est-ce que votre père, encore une fois, on ne saura peut-être pas exactement pourquoi, mais qu'est-ce qui lui a fait décider que là, c'est terminé, il n'y a plus de batteux?
Ben, c'est que les combines ont arrivé. Puis là, ben, c'est peut-être toujours de plus en plus difficile d'avoir la main-d'œuvre. Mm-hmm. Fait que là, il a décidé d'acheter une combine. C'est en 1942, la première.
C'était une quoi?
Une coq-chotte.
Et puis, est-ce qu'elle avait un... Il y en a eu toutes sortes, des coq-chottes. Est-ce que c'en était une en particulier?
Ça s'est attiré par le tracteur.
Ah!
Il y avait un moteur sur la combine. Ça, on l'a eu pendant 2 ans. Puis, c'est-tu la dernière? Oui, la deuxième année... On a eu, ben c'était en 44, justement. L'année qu'on a eu de la pluie, beaucoup au mois de juin, puis on n'a presque pas été capable de faire la récolte. Qu'est-ce qu'on a récolté, c'était avec peine et de misère.
Ah oui?
Je me souviens qu'on avait été, on avait du terrain un peu éloigné, puis on a parti avec deux tracteurs, puis la combine. Et on a marché tout l'après-midi, une grande après-midi, puis on est revenu avec la moitié de la tribu, le grain. Ça comprenait de 25 antennes de minots. Un tatouage stocké dans la boue. Oui, ça, je me souviens de ça.
Oui, ça, c'est inoubliable. Alors, pourquoi est-ce que la cop shot de 42, vous l'avez eue seulement 2 ans?
Bien, c'était qui n'était pas assez grosse. Là, on a acheté une un peu plus grosse, une Oliver. Elle avait un moteur dessus encore. Puis là, je m'imagine qu'il doit y avoir d'autres terrains qui s'est ajoutés. Parce qu'à un moment donné, on a eu deux combines de Oliver.
Ah oui?
Oui.
Alors l'autre est arrivé quand?
Ah là, je ne pourrais pas dire quand. Quelques années après. Donc, comme je dis, ça doit être parce qu'il s'est rajouté d'autres terrains. Puis que ça prendrait plus de machines pour.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, la combine Oliver?
C'est que si on voulait battre straight, mais là, elle avait, je pensais, 12 pieds de large, parce que la carcotte avec 6 pieds. Donc là, c'est une différence. Il y a plus de capacité.
Alors,
surtout le sort que...
Alors, vous êtes en train de me dire qu'avec la même moissonneuse-batteuse, on peut faire les affaires différemment? On peut. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de battre et de moissonner?
Oui.
Avec une machine?
Oui. Oui. Surtout dans ce temps-là, oui. Là, aujourd'hui, c'est encore la même machine, seulement qu'il change d'attachement. Ils peuvent avoir un pick-up pour ramasser ou ils peuvent battre straight avec une faux. Ils ont changé juste le devant seulement. Mais dans ce temps-là, non, il n'était pas question de ça.
Par curiosité, est-ce que vous vous souvenez de la couleur de cette Oliver?
Elle était verte.
Un vert différent de celui de John Deere?
Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un vert plus foncé que John Deere. Le carcotte était rouge.
Alors, une fois qu'on avait une pièce dont on voulait se débarrasser, est-ce qu'il y avait un marché d'occasion
oui.
pour les revendre?
Oui. Oui. Pour les combines, je ne sais pas trop, mais comme il y en a d'autres, comme des semeuses qu'on échangeait. Parce que je me souviens une où on a échangé au bout de 10 ans, puis on a eu presque aussi cher qu'on a payé pour. En échange sur un autre. C'est parce que les prix des machines montaient tout le temps. Parce que là, c'est comme, même si ont été dépréciés, c'est comme s'ils prenaient de la valeur comparativement aux neuves. Puis ça, il y a toujours du monde qui en cherche des machines seconde main. C'est de façon là qu'ils s'étaient éliminés.
Et puis, lui, l'équipement que votre père achetait, c'était de l'équipement neuf?
Oui. Oui, surtout neuf.
Et il allait l'acheter où, par exemple? S'il a acheté une Oliver, est-ce qu'il y avait un concessionnaire en particulier?
Il y en avait un Altona. Concessionnaire Altona.
Il le connaissait?
Oui. Oui.
Vous avez un nom?
Oh, là. Non, je pense que...
Les derniers, John Deere, peut-être, tu te
rappellerais.
Ah,
oui.
On va y dire peut-être à d'autres, mais disons que... Bon, alors si on continuait un petit peu le fil conducteur des combines, qu'est-ce qu'il y a eu après les Oliver?
C'est une Massey Harris.
Vous avez quel âge, là, à peu près?
L'autre avait quoi? 30. Peut-être 35-40 ans. Là, c'est une moissonneuse, une batteuse self-propelled.
Alors ça, c'était une grosse amélioration, quoi.
Oui. Excusez, non, il y en a une autre avant celle-là.
OK.
C'est une cock-shot.
OK.
Oui.
Self-propelled.
Puis je me souviens, c'est moi qui est venu. C'est mon père, il m'a emmené en ville. On a été la chercher à Transcona.
OK.
Puis je me suis allé par terre jusqu'à l'atelier. Ça, c'est 60 000. À 4 000 à l'heure. Puis c'était au mois de décembre. Oui, ça, là.
Tu peux pas avoir oublié ça.
Non, là. Moi, je suis toujours rappelé. C'est pas parce que j'ai pas aimé mon expérience, mais.
T'as touché à
Saint-Albert. Oui. J'ai parti, là, on a parti de Transcona vers midi. J'avais rendu à 4 heures, je savais qu'on ne pouvait pas le faire, fait que j'ai arrêté à Saint-Norbert. J'ai couché chez un de mes oncles.
Mais vous étiez à combien, là? Vous étiez tout seul, là?
Oui. Oh, ben oui.
Ben oui.
Ben oui, il n'y avait qu'un siège. Le lendemain matin, j'ai parti.
Et l'oncle, il s'appelait comment?
Arthur Delorme. Le lendemain, j'ai parti. Puis encore là, petit train, 4 000 à l'heure. Là, ça m'a pris 4 heures pour me rendre à Sainte-Agathe. Fait que là, ben, je savais qu'il y avait une façon de changer les poulies de bord, là, pour aller, ça pouvait aller plus vite. Parce qu'il y a de l'heure double plus vite. Fait que je n'avais pas parlé au concessionnaire. Ah, il dit non, quand la machine est neuve, non, c'est mieux de continuer demain. Fait que rendu à Saint-Norbert, à Sainte-Agathe, je me suis dit, ben là, ça fait assez de tôt au café, là, il y avait un concessionnaire, justement, à Sainte-Agathe.
Okay,
de Cockshot. Non, ça n'a pas coûté. En tout cas, je me suis dit, il va savoir que quoi faire. Fait que, il l'a fait. Fait que là, ben, ça en allait à 7 000 à l'heure. C'était quasiment de retour. Mais il commençait à faire noir, puis je n'étais pas encore rendu. Là, c'était le lendemain. Fait que mon frère est venu au-dedans de moi. Là, ben, lui, il a pris ma place sur la combine pour me s'en aller en auto. Je me suis réchauffé un peu, d'eau. Mais
ben
c'était pas chaud. C'était pas chaud.
Et puis, c'était pas du temps où il y avait de la climatisation?
Ah, hein? Ben non. Non, mais de la chaleur, non. C'était en plein air.
Allez.
En plein air, oui, oui, monsieur.
Oh,
non. Puis, on n'avait pas des sauts de skidoo comme qu'il y a aujourd'hui. C'était juste des coveralls puis un parka. J'avais même pas de couverte pour me mettre sur les genoux.
Il n'y avait pas trop de vent quand même?
Non, mais il y en avait quand même. C'était pas cool.
Et le chemin était comment?
Ah, ben les chemins étaient bons, mais pour la vitesse qu'on allait, là...
C'était
un
asphalte?
Oui, oui, oui.
Ah oui, les chemins étaient asphaltés?
Oui, sur le 75. Mm-hmm. Oui.
Alors là, il faut absolument, avec une si belle anecdote, il faut trouver une date. Il faut qu'on...
C'est avant que je me marie, ça.
Hein? Ça? C'est possible.
Je me
rappelle que... Oui. La première, c'était en 42, ça, 45, Oliver. Après ça, ben, c'est celle-là qui était la suivante. Fait que, peut-être autour de 40, peut-être 50. Oui, dans les 50.
Oui, parce que là, oui. il y aurait un autre point de repère, il y a la flotte de 50 nations.
Oui.
Il y a un lien peut-être, est-ce que vous l'aviez déjà?
Je pense bien qu'on l'avait.
Donc, c'était peut-être en 49.
Oui, disons 49, qui était assez proche.
Ah oui, ça, c'est... Alors, ça vous a pris combien d'heures en tout?
En tout, ça, 8, 12 heures, 14 heures.
Est-ce qu'ensuite, vous l'avez utilisé beaucoup, cette cockshot?
Oui.
Je me souviens. Là, je vous vois sourire, donc il y a quelque chose de beau qui vous vient.
Oui,
ben,
c'est une autre chose que je me souviens. Que justement, on battait des poids. Puis, dans des poids, ça fait une grosse poussière épaisse. Puis, avec ce qui tourne en avant, là, c'est comme ça. La poussière montait. Puis, pour m'exempter d'être dans cette poussière-là, il fallait que je me mette debout sur le siège. Puis, conduire avec mon pied.
Oui.
Je me tenais sur la trimure en arrière, puis je conduisais avec mon pied. C'est ça. J'avais trouvé ça un peu Pas tout le temps, mais c'est quand, en allant sur un sens. Il fallait que je fasse ça, autrement, là, la repousser, me monter dans la face. Là.
Alors là, c'est une autre manière de dire que, comparé à aujourd'hui, c'était un équipement relativement primitif, quoi.
Oui, il y avait pas de temps. Oui. C'est les premiers qui sortaient.
Mais comme vous ne connaissiez pas d'autre chose.
Ben justement.
Alors vous avez improvisé.
Oui. Comme là, aujourd'hui, ben, on se demande pourquoi ça fait qu'on fait ça, mais c'est la chose du temps.
C'est ça. Et puis alors, est-ce que la Massey Harris, elle a remplacé la
Longchamp? Oui, oui.
Et les Oliver ont disparu entre-temps?
Oui, ils ont disparu. On a peut-être gardé une, puis changé une pour la Serre Propel. Ça, je ne suis pas sûr, mais je pense bien que
c'était
c'est de même.
C'est ça. Et puis alors, c'est évident que là, c'est comme ça que vous en êtes souvenu, la Corkshot, elle était self-propelled.
Oui.
C'était la première,
oui.
Pas forcément.
Oui.
Est-ce que, pour vous, là, ça facilitait le travail?
Oui.
Qu'est-ce que ça changeait?
Ben là, ça prenait rien qu'un homme pour une moissonneuse. Autrement, ça en prendra deux.
Et puis deux pièces d'équipement, quoi.
Oui. Ben, le tracteur, il faudrait l'avoir pareil.
Ah, d'accord.
Oui.
Mais il pouvait faire autre chose, le tracteur.
Absolument. Oui.
Et il servait à quoi, alors?
Oh, ben là, il pouvait. S'il y avait la main-d'œuvre, il pouvait commencer à travailler le terrain pour l'année suivante. Soit le bourrer ou. Travailler le terrain, quoi.
Et puis, on progresse très bien, après la Massey Harris, qui a donné satisfaction?
Oui.
Quelle couleur elle avait?
Rouge.
Le même rouge que la Corkshot?
Pas mal. Ça montre les roues sont un peu différentes, je pense. Je pense qu'on a eu une deuxième Massey.
Et il était où, le concessionnaire?
Bon, c'était Altona, celui-là aussi. Ça. Parce qu'à l'atelier, il y en avait, mais c'était d'autres choses, une autre marque. Non, je ne me souviens pas. Là.
Alors, quand est-ce que vous avez eu la première avec un habitacle? Quand vous n'étiez plus en plein air?
Alors ça, c'est avec les Saint John Deere.
Ah! Et la John Deere, elle est arrivée quand, cher ami?
Même parce qu'on a eu un autre John Deere avant.
Ah bon?
Qui n'avait pas de câble dessus. C'est le modèle 95.
Avant celle-là?
Oui. Celle qui a eu un câble, c'est une Corbin qui était louée. On louait ça de Guertin.
Ah bon? Pourquoi elle était louée?
Ben, ça faisait moins de capital à sortir.
D'accord.
Puis, en tout cas.
Et ça, on est vers quelles années, là?
Ça va être 55, 60. Pas sûr.
D'accord. Mais disons que, dans vos souvenirs, La John Deere avec l'habitacle, c'est au début des années, c'est à la mi-50.
Oui, même 60.
Même 60.
Oui. Bon, c'est plus proche de 60.
Et puis, ça devait bien tomber. Vous commenciez à prendre de l'âge tout doucement. Et puis là, l'équipement s'améliore.
Oui. Oui, puis on prenait de l'expérience.
Quelle était l'expérience principale? Qu'est-ce que vous pouviez... À quoi vous pensez quand vous dites expérience?
Bien, on savait plus comment l'ajuster pour faire la bonne ouvrage. Parce qu'avec une moissonneuse, on ne part pas de la chaîne, puis il faut voir qu'est-ce que c'est qu'on fait. Si on n'en fait pas trop dehors, ou si le grey est propre qui monte. Fait que, il y a plusieurs choses à surveiller. Entre autres, je pense que c'était avec la Massé. Là. Je me souviens, une année, c'était le terrain était trempé. Puis à un moment donné, tu vois, ça sentait le brûler. J'ai arrêté, j'ai regardé dessous, puis justement, il y avait du feu.
Ah oui?
C'est les roues qui montaient des feuilles, puis le moteur, ou la fan du moteur, il tirait ça, là, tirait de l'air, puis les feuilles venaient avec. Puis quand les feuilles, s'il y avait des feuilles un peu sèches, qui touchaient sur le manifold, c'est ça qui a mis le feu. Puis le moteur forçait était durement. Fait que, il y avait du feu.
Est-ce que l'équipement a été assuré?
Oui, mais je voulais éteindre tout de suite pour clamer l'assurance du tout. Les machines de tout rassurer.